Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et cet observateur étranger, c'est l'essayiste Mathieu Bock-Côté. Bonjour, vous publiez L'Empire du politiquement correct au CERF. C'est intéressant d'avoir un regard étranger, un regard plutôt conservateur comme le vôtre. Vous nous direz d'ailleurs si cette étiquette vous convient. Mais tout d'abord, en France, suite au traumatisme produit par l'incendie de Notre-Dame, on se rend finalement compte qu'il y a un véritable attachement, un attachement profond dans notre pays vis-à-vis du patrimoine. Qu'est-ce que ça suscite en vous, Mathieu Bock-Côté?
D'abord et avant tout, comme tout le monde, l'horreur au moment des événements, une forme relative de soulagement quand on comprend ensuite que tout n'est pas perdu. Deux sentiments, ça l'a dit. Le premier, c'est que nous savons, nous construirons des cathédrales et autre chose dans cet espoir qu'ils traversent les générations, qu'ils durent, qu'ils construisent un monde transcendant nos existences individuelles. Donc, il y a une forme de promesse d'immortalité dans de tels bâtiments qui traversent des siècles et dans le cas présent, qui traversait presque, en fait, qui se calculait à la hauteur du millénaire. Et de l'autre côté, ce sentiment qui revient toujours que même la construction humaine la plus forte, la plus robuste, pourrait finir un jour par se décomposer, par devenir poussière. C'est la réflexion des Occidentaux depuis 1500 ans sur la chute de Rome. Si même l'Empire romain est tombé, tout finira par tomber. Mais il y a quelque chose d'horrible à être témoin de la décomposition devant nous de quelque chose comme Notre-Dame.
Et vous qui êtes Canadien, vous venez d'un pays où il y a peu de bâtiments anciens, disons que le 18e est déjà une époque assez avancée. Alors, il y a les peuples premiers, bien sûr, mais si on met de côté les vestiges des peuples premiers, quel regard portez-vous sur le vieux continent et le rapport qu'il entretient, justement?
Je me permettrai une nuance qui aura une portée politique, vous en doutez. Vous me dites je suis Canadien, moi je vous répondrai je suis Québécois. Et les deux pays, le Québec et le Canada, même si le Québec n'est pas encore indépendant, mais ça viendra, le Québec, sa devise, c'est « je me souviens », il ne faut pas l'oublier. Alors que le Canada se voit comme un pays qui, en fait, s'est construit depuis 30 ans sur la négation de son histoire. Le Canada est un pays où il y avait deux peuples fondateurs, les Québécois et les Canadiens anglais. Le Canada s'est voulu, depuis 82 environ, le laboratoire de la diversité, un pays qui n'a d'autres noyaux identitaires que sa quête de diversité. Donc, de ce point de vue, le Canada est un pays qui se voit non seulement comme le meilleur pays dans le monde, c'est au cœur de la rhétorique et de la propagande du gouvernement fédéral depuis longtemps, mais plus encore, c'est le pays qui se voit en avance dans l'histoire. C'est-à-dire le Canada serait le pays de la prochaine étape. Mmh. Le Canada serait le pays qui serait en avance dans l'histoire. Le Québec se voit autrement. Le Québec, c'est « je me souviens ». Le Québec, c'est un pays qui est conscient de son histoire, de 4 siècles d'histoire. D'abord l'Amérique française, ensuite la domination anglaise, ensuite la tentative d'une renaissance québécoise. Donc je crois que les Québécois, dans les circonstances, sont bien placés pour comprendre ce souci de l'histoire, ce souci du patrimoine, cette volonté d'habiter une société qui ne se vit pas strictement au temps présent, une société qui a de la profondeur historique, une société qui est consciente de ses origines, une société qui ne maudit pas son passé.
Pourquoi ? Parce que vous pensez qu'il y a des sociétés, alors peut-être une partie de la vôtre, en tout cas le Canadien, hein, anglophone, aurait-il une tendance à haïr son passé ou à refuser d'avoir un passé, Mathieu?
En fait, c'est deux choses. Vous savez, au Québec, j'aurais dû faire la nuance aussi, on a aussi un rapport trouble au passé, on appelle quelquefois ça la grande noirceur. Mais nous savons, je me souviens, ça demeure fort, c'est-à-dire cette idée que une identité n'est pas nouée simplement à travers des principes universels, aussi indispensables soient-ils, mais à partir d'une expérience historique. Or, le Canada s'est voulu, depuis 82, depuis la refondation multiculturaliste par Trudeau, s'est voulu un pays qui ne se définit justement plus par l'histoire, mais par sa capacité à s'arracher à sa propre histoire. Mais notez bien que partout dans le monde occidental, aujourd'hui, la mauvaise conscience, le sentiment pénitentiel, ce sentiment que le passé se résume à une série d'abjections et de crimes, c'est quand même assez présent dans notre monde aujourd'hui.
Justement, on va écouter un extrait d'un discours de Justin Trudeau.
Depuis des siècles, la diversité est au cœur de ce que représente le Canada. C'est la base sur laquelle notre grand pays a été construit. Mais aujourd'hui, si beaucoup d'entre nous célèbrent le 150e du Canada, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les peuples autochtones ont été la cible du racisme et de l'oppression pendant des siècles. À partir du moment où les premiers explorateurs croyaient découvrir un nouveau monde. En tant que société, nous devons reconnaître les erreurs du passé, présenter nos excuses et tracer la voie à suivre pour faire en sorte que chaque Canadien ait un avenir prometteur. Démontrons que la diversité est une source de force et qu'un pays ouvert et accueillant est plus fort et plus uni.
La voix de Justin Trudeau, Mathieu Bock-Côté, vous qui êtes Canadien, Québécois, c'est quand même agréable d'entendre cette voix qui accepte la diversité alors que Donald Trump n'est que vitupération, que fermeture à l'autre.
Alors vous savez, Justin Trudeau, en la matière, réécrit l'histoire avec un zèle idéologique assez fascinant. Premièrement, l'histoire du Canada, faut pas l'oublier si on tient à utiliser le mot Canada au sens des origines. C'est la France qui première s'installe, et contrairement aux anglo-saxons, contrairement aux britanniques en fait, la France va avoir une politique d'alliance avec les peuples amérindiens. Il n'y a pas d'histoire homogène des Européens en Amérique. Les Français ne sont pas des Anglais, qui ne sont pas des Espagnols, qui ne sont pas des Portugais. Et il n'y a pas dans l'histoire, quand on pense à Champlain par exemple, qui fonde Québec en 1608, il veut alliance, il veut métissage, pour le dire avec les mots d'aujourd'hui, évidemment sous le signe du catholicisme et tout ça, mais selon l'esprit de l'époque, il y a une immense générosité chez Champlain. Donc dire que Champlain, ce que nous dit Trudeau en fait là-dessus, c'est qu'il vient nier l'histoire de la Nouvelle-France pour la fondre dans l'histoire de l'Amérique anglo-saxonne, ce qui n'est pas surprenant de la part d'un Québécois qui s'est anglicisé fondamentalement, mais je laisse ça de côté. Deuxièmement, l'histoire du Canada serait une histoire de diversité, il faut quand même nuancer, c'est aussi l'histoire de l'anglo-conformité, c'est-à-dire que fondamentalement, le Canada s'est constitué depuis la conquête certainement de 1760, mais au fil du temps sur la négation de sa principale forme de diversité, c'est-à-dire le peuple québécois. Vous savez, c'est une histoire très canadienne, mais je me permets de la résumer. Au Canada, la reconnaissance de toutes les formes de la diversité présuppose la négation du peuple québécois. Pourquoi? Parce que dans l'histoire du Canada, on parlait pendant longtemps du biculturalisme, c'est-à-dire le peuple canadien-français, ou québécois on dirait aujourd'hui, le peuple canadien-anglais, mais fondamentalement on ne voulait pas reconnaître le fait québécois, parce qu'il y avait le vieux rapport colonial, impérial, ou néocolonial, on dirait aujourd'hui avec les Québécois, peuple vaincu qui devait le rester. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a parlé de multiculturalisme plutôt que de biculturalisme. Donc le peuple québécois devenait une minorité ethnique parmi d'autres dans le Canada pluriel. Et dans le Canada d'aujourd'hui, lorsque le Québec cherche à s'affirmer, on assimile toute forme d'affirmation québécoise à une forme de suprémacisme ethnique. Je vous donne un exemple. Il y a en ce moment au Québec un débat très important sur la question de la laïcité. Le Québec, qui est une société à part entière, une nation, un peuple, le Québec veut aller de l'avant avec une politique de laïcité. Très, 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 très modeste, pour ne pas dire minimaliste d'un point de vue français. Chez nous, c'est essentiellement les signes religieux ostentatoires qui seront interdits chez les employés de l'État en situation d'autorité. Bon, ça touche pas tant de monde que ça, mais c'est un principe qu'on veut marquer. Il y a une clause grand-père qui, en gros, si vous avez déjà votre signe religieux ostentatoire, vous avez le droit de le garder, mais si vous êtes nouvellement employé, vous n'y avez pas droit. Bon, c'est très modéré. Or, le Canada anglais présente ça comme une forme de suprémacisme ethnique, je l'ai dit, de racisme, de discrimination, de ségrégation. Donc, le Canada ouvert à la diversité, j'aurais quelques nuances à apporter par rapport à ce beau récit.
Bon, mais ça, c'est votre regard, peut-être, parce que vous
mais
êtes...
Mais le regard de bien des Québécois.
Bon, je ne dis pas que vous êtes isolé, mais si vous voulez, la différence, c'est que dans le monde entier, y compris en France, vous venez souvent en France, Mathieu Bock-Côté, vous le savez, il y a beaucoup de débats extrêmement vifs sur l'identité. On a l'impression que chez vous, aussi bien à Montréal qu'à Vancouver d'ailleurs, les peuples sont les bienvenus, les personnes, quelle que soit leur origine, coexistent. C'est vraiment un pays qui semble véritablement vivre le côté post-racial de notre époque.
Post-racial, je l'espère, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, si vous m'avez...
Ce qui n'est pas le cas des États-Unis.
Les États-Unis, c'est une histoire à part entière, c'est-à-dire que la question raciale, l'oppression des Noirs, la domination des Noirs, et c'est la part d'ombre, c'est la part tragique, c'est la part absolument criminelle de l'histoire américaine, sans le moindre doute. Mais nous ne sommes pas tous des Américains. Et moi, ça me fascine qu'on cherche aujourd'hui à étendre l'imaginaire américain à toutes les nations occidentales. On l'a vu en France tout récemment avec l'interdiction d'une pièce d'Eschyle. C'est vraiment la logique qui se passe dans les campus américains où au nom d'une forme de néo-racialisme...
L'interdiction d'une pièce d'Eschyle, il faut rappeler à nos auditeurs...
À cause de la question du fameux blackface, comme on disait. En gros, on disait, cette pièce est raciste parce que, on le comprend bien, des blancs, entre guillemets, terme qui veut pas dire grand-chose entre vous et moi, portent ce qu'on croit être le blackface alors que c'était des masques grecs, mais qu'importe. Ça, c'est une logique de censure propre au campus américain. Mais le Canada, j'aimerais... Ça, vous savez, moi qui suis québécois, je veux pas témoigner, je veux pas avoir l'argument d'autorité par le fait d'être d'être citoyen du pays, mais je vous dirais que il y a la légende canadienne, il y a la réalité canadienne. Le Canada est un pays où, regardez le sort des minorités francophones partout à travers le Canada. En Ontario, province juste à l'ouest du Québec, les droits des francophones ont été amputés assez sévèrement ces derniers mois. Ces derniers mois, le Canada est un pays qui aime valoriser de manière folklorique sa diversité interne, donc la diversité issue de l'immigration récente, donc le turban dans la police montée, la GRC, la gendarmerie royale canadienne, le niqab qu'on peut porter dans... ça, c'est de la folie canadienne, si je peux me permettre, c'est-à-dire le fait qu'il soit possible au Canada de prêter son serment de citoyenneté avec un niqab, et le fait que le niqab est vu comme une marque d'ouverture et de tolérance. Pourquoi? Parce que notre ouverture au niqab confirme notre propre ouverture à la diversité. Mais croyez-moi, ça fait des débats très vifs au Canada. On devrait se dégager, à mon avis, d'une vision exagérément romantique de la diversité canadienne. Et n'oublions pas, je me permets de vous y ramener parce que c'est essentiel, la véritable marque d'ouverture, si le Canada avait une forme d'ouverture, ça serait envers le peuple québécois, lui permettre de définir lui-même ses institutions, de ne pas contester les lois linguistiques qui assurent la survie du français en Amérique du Nord, ne pas contester les lois qui assurent le progrès du français à Montréal. Eh bien, le Canada, depuis 30 ans, a torpillé systématiquement les lois linguistiques québécoises. Donc, le Canada, c'est le pays, je dirais, de la diversité en anglais. Mais quand vient le temps d'avoir la main tendue envers un de ces deux peuples fondateurs, le Canada, bien franchement, décide de se comporter à la manière d'une puissance, je dirais, néocolonial comme les autres.
Mais alors, en tout cas, en France, si on continue de voir les choses de l'autre côté, il y a toute une série de situations où le racisme pointe son nez. Ce matin, dans la revue de presse, il y a par exemple des exactions qui ont été commises contre les Roms. Vous publiez l'empire du politiquement correct. On aimerait, par exemple, quand on lit cette chasse aux Roms qui a été effectuée dans la banlieue parisienne, on aimerait un peu plus de politiquement correct.
Mais je crois que ça dépend le sens que vous donnez au mot politiquement correct, évidemment. Si par politiquement correct, vous nommez courtoisie, décence, politesse, respect élémentaire de l'autre, alors j'espère qu'on le sera tous. Mais vous qui avez l'ouvrage devant vous, vous l'avez lu, vous voyez que la définition du politiquement correct que je donne est tout autre. C'est-à-dire, je n'utilise... Parce que le drame de ce concept, c'est qu'il a été tellement utilisé de toutes les manières possibles depuis 30 ans qu'on ne sait plus ce qu'il veut dire. Et moi, ce que je cherche à faire dans l'ouvrage, c'est en proposer une définition assez, j'ose croire, assez fine, à tout le moins assez rigoureuse. Je la résume d'un mot, le politiquement correct, ce sont les méthodes de disqualification morale, de psychiatrisation, de diabolisation, d'exclusion de l'espace public, de ceux qui entrent en contradiction avec ce qu'on appellera aujourd'hui l'idéologie diversitaire. Donc c'est cette manière, par exemple, d'assimiler toute critique de l'immigration massive au racisme ou à la xénophobie, toute critique plus largement, je dirais, de l'héritage des Radical 60s à l'intolérance et au traditionnalisme. Donc ça, de ce point de vue, je critique le progressisme obligatoire qui domine l'espace public dans les sociétés occidentales.
Mais alors, justement, parce que dans cet essai, un essai dont le sous-titre est un essai sur la respectabilité politico-médiatique. Alors oui. Forcément, un journaliste se sent nécessairement visé ou en tout cas impliqué dans vos propos. Vous dites par exemple que la visée des débats, je résume votre propos, Mathieu Bock-Côté, est de plus en plus pédagogique et de moins en moins contradictoire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un certain nombre de thèmes, comme par exemple la lutte contre le racisme, qui mérite justement d'être plus pédagogique que contradictoire?
Eh ben, tout dépend évidemment de la définition que vous donnez du mot racisme. C'est-à-dire, si on parle de la haine raciale, évidemment. Mais le problème, c'est que le mot racisme, aujourd'hui, regardez ce qu'il devient dans les sciences sociales. Parce qu'il faut voir, ce terme-là évolue sous la pression des sciences sociales. Eh bien, le racisme, aujourd'hui, est assimilé, je le disais, à la critique du multiculturalisme, quelquefois. Il est assimilé à la critique de l'immigration massive. Il est assimilé à l'idée même de l'universalisme républicain. On appelle ça le racisme universaliste. Il est assimilé à cette idée comme quoi les cultures ne cohabitent pas nécessairement spontanément bien entre elles. S'il y a ça, c'est le racisme différentialiste. Il y a le racisme systémique. Donc, le mot racisme, aujourd'hui, dans nos sociétés, a pris une telle extension qu'il ne sert plus à définir le racisme tel qu'on le reconnaissait historiquement, tel qu'on le définissait historiquement. Il sert aujourd'hui à faire taire toute forme, me semble-t-il, de critique articulée de l'idéologie diversitaire, du multiculturalisme, de l'immigration massive, autrement dit, de ce discours assez dominant, quand même, dans l'espace public, dans le monde occidental.
Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, puisque le racisme a muté, c'est-à-dire, par exemple, le racisme des années 30 qui était massivement biologisant, disons qu'il est largement aujourd'hui en régression, pour ne pas dire en voie de disparition, et il a été remplacé par un racisme qui est beaucoup plus culturaliste. Est-ce que ça n'est pas normal que l'antiracisme lui aussi mute?
Alors, si je peux me permettre, ça c'est une histoire particulière du racisme qu'il vaudrait la peine de critiquer, de réviser de manière un peu avec quelques sévérités. Moi, quand j'entends par exemple cette idée comme quoi les musulmans seraient les juifs d'hier, hein, c'est-à-dire les musulmans là, ou les juifs. Donc cette idée comme quoi l'islamophobie, terme par ailleurs galvaudé, terme qui méritait d'être critiqué, terme qui assimile à la, au dérèglement psychiatrique la critique d'une religion ou de ses manifestations excessives, eh bien, qui ce serait le nouveau visage de l'antisémitisme. Je dis non, cette histoire-là présuppose une chose, c'est qu'il y aurait au cœur de la civilisation occidentale un désir de persécution de l'autre, un désir de l'autre avec un A majuscule. Donc, il y aurait une case vide, ce serait la case vide de l'autre, et il nous faudrait à chaque génération, à chaque époque, un bouc émissaire à persécuter. Je ne partage pas cette lecture des choses. Par ailleurs, constater que toutes les cultures ne cohabitent pas aussi facilement qu'on le souhaiterait entre elles, c'est une observation factuelle qui relève pas, ce que j'en suis, du racisme différentialiste. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des frontières entre les pays. C'est parce qu'en dernière instance, chaque peuple cherche à s'organiser lui-même, ensuite en tendant la main à ceux qu'il rejoigne. Évidemment, il est possible de s'intégrer une nation. Il faut refuser toute définition racialisante ou biologisante de la nation. Ça va de soi. Mais devons-nous, au nom de la condamnation d'une définition biologisante de la nation, condamner une définition historique et culturelle de la nation? Ça, c'est là que nous conduit une certaine sociologie antiraciste qui est, à mon avis, plus militante que scientifique.
Mais pour autant, ce qui est très étonnant, c'est de vous entendre dire ça avec l'accent québécois, parce que on se dit que s'il y a un pays où cette diversité, elle fonctionne, alors qu'est-ce que ça veut dire, elle fonctionne? Bah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hystérisation des débats identitaires, qu'il n'y a pas de violence. C'est un pays quand même très très peu violent vôtre.
Cher monsieur, permettez-moi de vous corriger, j'aime pas faire ça, mais le gouvernement, je l'ai dit, le gouvernement du Québec vient de proposer, je le disais tantôt, une politique de laïcité très très, très modéré. Il s'est fait accuser pour l'instant de racisme, de discrimination, de ségrégation américaine, de nettoyage ethnique.
Alors, non, évidemment. Mais ça, c'est les règles de la politique.
Non. L'accusation de nettoyage ethnique, c'est pas les règles de la politique. C'est
non, une accusation. Je parle du vocabulaire qui.
Non, mais je crois pas. Vous savez, tout le génie, me semble-t-il, j'essaie d'y consacrer le dernier de mon chapitre, le génie de la politique en démocratie libérale consiste à se traiter comme adversaire légitime et non pas comme ennemi de l'humanité, non plus comme ennemi public. Quand on accuse quelqu'un de fasciste, de racisme, de nettoyage ethnique. Quand on utilise de telles accusations, on expulse du débat public en diabolisant son adversaire. Pour moi, de ce point de vue, vous savez, si la vie est plus paisible au Canada, l'hystérisation des débats identitaires sur la négation du droit des nations à se perpétuer, on connaît ça.
On va faire réagir un observateur neutre. En tout cas, il est québécois, donc il n'a probablement pas fait l'ENA, n'est-ce pas, Mathieu Bock-Côté?
Mais vous savez, ça doit être, certains Québécois ont fait l'ENA, et un ami québécois me disait hier qu'il a fait l'ENA, qu'il se désolait de son éventuelle suppression. Alors, j'ai pas d'avis particulièrement.
Mais peut-être par nostalgie de ses études.
Oui, probablement, mais peut-être aussi parce qu'il a eu le sentiment, lui, d'avoir une formation d'excellence en passant par là. Je prétends pas avoir un avis particulièrement arrêté sur la question, sinon que vu de loin, l'ENA est vu comme un symbole d'excellence néanmoins. C'est vu comme un symbole de la qualité de la formation des hautes figures de la fonction publique en France. Donc, une fois que c'est dit, faudrait que je me penche sur la question avec un peu de sérieux pour dire quelque chose d'intelligent sur ça. Mais, vu de loin, c'est une institution qui est vue comme de qualité.
Mais alors, si vous compariez la situation française et les critiques de plus en plus vives contre la méritocratie à la française, contre un système qui ne marcherait plus, et ce que vous observez notamment au Québec ou au Canada, Mathieu Bock-Côté.
Ah ben, l'Amérique du Nord est, je dirais, plus égalitaire, sans le moindre doute, mais ça fait partie du code génétique,
historique du pays.
Oui, je pense que les relations sociales sont plus égalitaires, alors qu'en France, malgré...
Mais les fortunes sont plus inégalitaires.
Sur le plan financier, sans le moindre... Il y a autre chose. Mais dans les rapports sociaux, entre l'Amérique du Nord n'a pas de structure, de tradition aristocratique, n'a pas de hiérarchie sociale aussi codifiée que ça peut être le cas dans les vieux pays d'Europe. Mais ça, c'est presque inévitable. Tocqueville avait eu des observations assez justes sur l'égalitarisme dans le Nouveau Monde. Ensuite, c'est cette formule... on pourrait dire qu'en Amérique du Nord, la classe moyenne est la classe de référence. Justin Trudeau, dont on parlait tantôt, ne parle du Canada souvent que davantage de la classe moyenne que de toute autre chose. Mais c'est pas la même structure sociale. Et il y a en France, néanmoins, un reste, appelons ça aristocratique, pour le meilleur et pour le pire, chacun tranchera. Mais il y a un certain rapport aux élites ici qui est sous le signe de la verticalité, davantage que chez nous, où l'idée des élites, c'est normalement de faire peuple le plus rapidement possible, alors qu'il y a ici des codes d'une société où une certaine élite se reconnaît à travers des codes culturels, des codes littéraires qui ne seraient pas nécessairement bien vus chez nous.
Alors, du coup, comment interprétez-vous la crise des Gilets jaunes, Mathieu Bock-Côté?
Alors, d'abord et avant tout, j'y ai vu l'insurrection, non pas... après coup, on peut tous prétendre l'avoir prévu après coup, disons ça comme ça. Mais sur le fond des choses, une forme d'insurrection de ce qu'on a appelé la France périphérique. C'est-à-dire, c'est bien avant, je parle des premiers moments des Gilets jaunes. Aujourd'hui, c'était récupéré par des mouvances radicales qui ont une forme de culte insurrectionnel. Mais les premières semaines, je pense qu'on pouvait y voir cette France périphérique indélocalisable qui ne veut pas être considérée simplement comme une population interchangeable dans les paramètres de la mondialisation, qui cherche à vivre dignement chez soi, qui cherche à vivre dignement chez soi de son travail, des populations qui avaient été oubliées parce qu'elles n'étaient peut-être pas suffisamment, elles n'entraient pas suffisamment justement dans les catégories officielles d'une certaine sociologie, toujours à la recherche de la minorité idéale. On n'était pas ici devant des populations qui plaisaient à la sociologie officielle. Donc c'est l'insurrection et c'est aussi dans un pays où, parce que partout ce qu'on appelle en Occident, tort ou à raison, une forme de vague populiste, pour différentes raisons par ailleurs compréhensibles, en France, elle est bloquée politiquement. Donc dans un pays qui a une tradition insurrectionnelle forte, dans un pays qui poétise l'insurrection aussi, le mouvement des Gilets jaunes est compréhensible, c'est-à-dire c'est le peuple qui décide de matérialiser son existence en se rassemblant au-delà du rendez-vous électoral pour, à travers un langage insurrectionnel ou à tout le moins celui de la jacquerie. Donc ça s'inscrit dans une histoire française, voilà pourquoi par ailleurs ça se reproduit pas aussi facilement ailleurs.
Et alors, du coup, comment expliquer, et on va l'entendre, que dans ce contexte de crise, il y ait eu une sorte de regain. Alors, je pense par exemple au dernier sondage sur les listes aux élections européennes, avec, semble-t-il, un accroissement des intentions de vote pour la liste des Républicains, laquelle est menée par François-Xavier Bellamy, un philosophe plutôt conservateur. On l'écoute.
Nous avons le devoir de dire ce que nous croyons juste. Et la question de la gestation pour autrui est une question éthique absolument fondamentale. C'est la dignité humaine, c'est la marchandisation du corps qui est en jeu. D'autres pays que nous ont décidé d'introduire la gestation pour autrui dans leurs droits. Très bien, mais ça n'est pas notre cas. Et il ne faudrait pas qu'on trouve des moyens de contourner le droit national au motif de l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, il doit être évidemment préservé. Ces enfants ont un état civil, ils ont une filiation, mais nous n'avons pas nécessairement à transcrire ce qui est pour nous le résultat d'un acte commis dans l'illégalité qui va contre ce que nous croyons être un des principes fondamentaux de la dignité humaine et du corps des femmes en
Donc,
particulier.
Donc pas d'origine et pas de filiation, alors pas
Ils
de
retranscription. Ils ont bien sûr une filiation. Encore une fois, c'est le choix de ceux qui ont décidé de pratiquer une GPA, de faire naître des enfants dans cette situation qui est effectivement une situation très particulière. Nous n'avons pas pour autant à trouver des moyens dans notre droit de laisser contourner notre droit lorsqu'il touche à des sujets qui sont si fondamentaux.
La voix de François-Xavier Bellamy. Mathieu Bock-Côté, vous qui avez publié L'Empire du politiquement correct aux éditions du Cerf, quel regard portez-vous sur François-Xavier Bellamy?
Un regard très positif, c'est-à-dire peu importe ce qu'on pense de ses idées en particulier, et par ailleurs j'en pense pas tant de mal pour le dire ainsi, il est rare qu'une figure d'une aussi grande qualité décide d'aller dans le débat public où aujourd'hui on a de bonnes chances de se faire inonder de boue. Et on a un homme qui se distinguait jusqu'alors par la qualité de sa réflexion, par une culture encyclopédique, une qualité de pédagogue assez remarquable, ça je pense qu'on est tous capables de s'entendre à ce sujet, qui décide de s'engager dans la vie publique parce qu'il a la vocation du service public, il croit que son pays va mal, il croit que son pays se porte très mal, et il dit, que mes idées doivent passer dans le domaine de l'action. Il décide de s'engager, je suis assez admiratif de quelqu'un qui a ce courage. Et par ailleurs, vu de loin, il y a un courant conservateur qui s'est déployé intellectuellement en France depuis quelques années.
Qu'est-ce que ça veut dire, un courant conservateur? Qu'est-ce qu'être conservateur aujourd'hui, Mathieu Bock-Côté?
Le conservatisme tel que je le définis, je prétends pas, ma définition en vaut peut-être d'autres, mais il y en a d'autres, je sais, c'est ce que j'appelle un rapport de scepticisme par rapport à la modernité. C'est-à-dire la modernité, cette idée qu'il faut rappeler à la modernité le sens des limites, le sens des permanences anthropologiques, le sens des permanences existentielles, donc la nécessité de la transmission culturelle, la nécessité de la verticalité, le refus de se laisser emporter par ce mouvement de la déconstruction obligatoire, donc la déconstruction de l'école, comme on l'a vu, la déconstruction de la nation, la déconstruction du savoir. Donc cette idée comme quoi la modernité, oui, c'est notre époque et nous l'embrassons parce qu'elle porte aussi de belles promesses. La possibilité de se gouverner par soi-même pour l'homme, l'extension du domaine de la liberté individuelle. Mais c'est cette idée comme quoi l'homme a besoin de limites, d'encadrement, d'un univers symbolique fort, d'une appartenance nationale qui ne soit pas que procédurale. Donc qu'est-ce que le conservatisme, à mon avis? C'est cette défense des médiations. en un mot, la tentation du fondamentalisme de la modernité, ce mouvement pour le mouvement, ce culte d'un mouvement insaisissable, c'est de nous dire que l'homme, en s'arrachant à sa culture, à sa patrie, à son histoire, à sa civilisation, va se libérer. Alors que non, à mon avis, il se désincarne et se condamne à la nudité existentielle.
Bon, mais avoir effectivement un regard anthropologique ou un regard plutôt sur la conservation des structures anthropologiques dans notre société. Bon, ça, c'est un terme finalement assez vague. Lorsqu'on entre dans les détails, on entend par exemple par conserver les structures anthropologiques, le refus de la GPA ou parfois le refus du mariage pour tous.
Je vous ai donné mes exemples. Moi, j'ai parlé de la nation, j'ai parlé de l'école, j'ai parlé de la transmission culturelle, j'ai parlé du savoir, j'ai parlé de l'importance de l'appartenance nationale. Donc, pour moi, la question aujourd'hui du conservatisme, c'est le maintien, en bonne partie, de la communauté politique. Et je note que François-Xavier Bienamy s'est d'abord fait connaître pour un livre qui s'appelle Les Déshérités. Et ça, c'est un livre assez important qui a eu un grand succès, faut le rappeler. Pourquoi? Parce que dans ce livre, il nous disait, et c'est l'écho à une pensée d'Alain Finkel, on ne pense pas par soi-même de soi-même. C'est par le détour des œuvres, c'est par le détour de la culture, par le détour de la littérature, de la philosophie, qu'on apprend à penser par soi-même. Or, aujourd'hui, on le voit avec l'espèce de néo-pédagogie qui a dominé dans votre pays et le mien pendant longtemps, eh bien, on croyait à une forme de pensée spontanée, de pensée le petit enfant laissé à lui-même allait nous accoucher d'une œuvre de génie. Eh bien non, le détour par la culture demeure la première manière de s'éduquer à la liberté.
Bon, mais j'entends bien cela, mais il n'y a pas que cela, Mathieu Bock-Côté.
Il n'y a pas que cela, mais je vous dis ce qui est, à mon avis, ce qui est le plus fondamental.
Bien sûr, mais si vous voulez, l'un des problèmes du conservatisme, c'est que bien souvent, il se mêle aussi des vies d'autrui. Et s'il y a généralement eu un accord, j'emploie l'imparfait, sur le fait que chacun avait le droit de mener sa vie, dès lors, bien entendu, qu'il ne nuisait pas à autrui. Dans le conservatisme, il y a aussi la volonté de régir d'autres vies, de considérer, par exemple, que le mariage pour tous n'est pas quelque chose de souhaitable, alors qu'il y a évidemment une contradiction entre ce principe et la liberté des individus. Comment vous faites?
Alors, il y a deux choses par rapport à ça. Vous savez, la tentative d'empiéter sur la vie d'autrui, aucune doctrine politique n'en a le monopole. Qu'il s'agisse du véganisme, je vous donne un exemple, cette espèce de nouvelles lubies qui emportent et qui transforment d'honnêtes personnes en fanatiques en l'espace de quelques temps parce qu'ils ont été illuminés par cette révélation nouvelle. Que l'on pense à ce que j'en sais au socialisme et au communisme qui, au XXe siècle, ont su se mêler de la vie d'autrui en prétendant ne pas le faire. Donc ça, c'est je crois qu'aucune doctrine n'a le monopole de se mêler de la vie d'autrui. Une fois que c'est dit, sur ces questions, la question est de savoir, peu importe ce qu'on en pense, est-ce que ça doit être traité politiquement ou sur le plan juridique? Est-ce que ça doit être un traitement au nom de chartes de droit, par exemple, ou est-ce que ça doit être des décisions politiques? Donc, comme société, est-ce qu'on est en droit de refaçonner nos institutions, de définir l'espace de nos droits? Est-ce que la démocratie pèse encore ou est-ce qu'on doit simplement déployer la logique des droits jusqu'à l'infini? Ensuite, on peut avoir des préférences que l'on veut sur ces questions. Pour moi, ce sont des questions politiques légitimes. Ce ne sont pas, par ailleurs, celles que je privilégie.
Des questions politiques légitimes? Alors, justement, vous prenez le véganisme. Il y a aussi d'autres courants qui sont...
Oui, bien sûr, mais je vous donne un exemple. C'est-à-dire, vous avez spontanément, vous associez le conservatisme à la volonté de se mêler de la vie d'autrui. Toute doctrine a sa part de pathologie. Mais je dirais que n'oubliez pas que des doctrines autres qui ont bonne presse aujourd'hui, que l'on cajole, que l'on embrasse, que l'on caresse en se disant ça porte peut-être le nouveau visage de l'humanité, il y a bien des doctrines qui veulent se mêler de la vie d'autrui. Et de ce point de vue, un bon libéral ne devrait pas s'inquiéter que des conservateurs.
Non, bien sûr, mais le souci, par exemple, des animaux, du bien-être animal, qui concerne aussi des philosophes qu'on range plutôt dans le camp conservateur. Je pense à notre camarade Alain Finkielkraut qui a lui-même publié un ouvrage le souci des animaux. Voyez que le conservatisme, finalement, va très bien avec des évolutions sociétales fortes, puisque le bien-être animal...
Non, mais un instant, mais je n'ai pas parlé du bien-être animal, j'ai parlé du véganisme. Donc, ça vous parlait de se mêler de la vie d'autrui. Ensuite, civiliser la société, ça consiste aussi, par ailleurs, à faire en sorte de ne pas avoir une définition sauvage de la liberté, c'est-à-dire je fais ce que je veux, comme je le veux, quand je le veux. Quand le gouvernement canadien, je y reviens, le gouvernement québécois dit, lorsque vous serez dans vos heures de travail, vous ne pourrez pas, si vous êtes un employé de l'État en situation d'autorité, porter de signes religieux ostentatoires. On se mêle de la vie d'autrui, entre guillemets, parce qu'on établit une norme commune. Si le commun, qui est le nôtre, c'est pas simplement une addition d'individualité, chacune blindée en elle-même. Si nous avons un commun substantiel, si nous partageons quelque chose, si nous partageons des choix de civilisation qui sont valables sur le plan plan social, économique, mais aussi culturel, sur le plan sociétal, il n'est pas illégitime de croire que la démocratie doit s'en mêler. Ensuite, on peut avoir un préjugé libéral en se disant qu'effectivement, il vaut mieux maximiser la liberté de chacun.
Oui, mais justement, la question du véganisme, comme d'ailleurs d'autres questions que vous traitez dans l'Empire du politiquement correct, Mathieu Bock-Côté, un livre que vous publiez aux éditions du Cerf, est-ce que ça n'est pas une manière de prendre un certain nombre de pensées qui sont des pensées radicales? Et les pensées radicales, je vais prononcer une généralité, sont généralement assez minoritaires. Alors vous allez prendre comme ça des exemples assez radicaux qui confinent parfois au sottisier pour faire des généralisations. Est-ce que finalement, vous n'utilisez pas ces caricatures pour voir des choses qui sont, somme toute, beaucoup plus raisonnables, comme par exemple le bien-être animal, le politiquement correct, qui est aussi une manière de lutter contre le racisme.
Alors, je me permets d'y revenir. Vous savez, il y a bien des idées qui nous semblent loufoques et radicales, et 20 ans plus tard, elles sont normalisées, et elles ont même le culot de se présenter comme des avancées scientifiques. Par exemple, j'ai déjà entendu, à une radio française, cette idée comme quoi le racisme anti-blanc n'existait pas. Donc, pourquoi? Parce qu'on avait proposé une telle définition du racisme que la haine des blancs n'entrait plus dans la définition du racisme, mais la défense d'une société universaliste, parce qu'elle masquerait les privilèges institutionnels systémique de la communauté blanche, entre guillemets, ce qui est pour moi une lubie, eh bien ça, ce serait du vrai racisme. Donc j'ai entendu ça à une radio française, cette négation du racisme anti-blanc, vous vous rendez compte? Et ça, il y a 20 ans, on aurait dit quelqu'un qui déteste les blancs, qui hait les blancs, ou qui hait les noirs, ou qui hait les asiatiques, c'est un raciste. Mais sur une radio française de grande qualité, j'ai entendu la négation de ça. Il y a 20 ans, vous aurez dit que c'est une idée absolument loufoque. Aujourd'hui, on vous présente ça comme une théorie scientifique reconnue. Et de ce point de vue, vous savez, on doit se méfier de ce qui semble être des idées radicales loufoques, parce que 20 ans plus tard, elles ont le culot de se présenter sous le signe de l'étude scientifique. Prenez aussi ce que s'appelle la théorie du genre, elle est du même registre.
Alors, la théorie du genre, comme vous le savez, c'est très largement contesté en France, mais vous ne pouvez pas, là aussi, nier que derrière ce qui peut passer pour des positions radicales ou des positions caricaturales de ces différents thèmes, Mathieu Bock-Côté, il y a simplement l'idée qu'il faut promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.
Vous me dites, je peux pas nier, mais je nie, cher monsieur. Je n'entre pas dans votre cercle de l'évidence. Je dis, moi, l'égalité entre les hommes et les femmes, j'y tiens fondamentalement. La négation du masculin et du féminin n'entre pas pour moi dans la définition de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et vous me dites, ce sont des idées loufoques. Pourquoi je me préoccupe de ce qui se passe dans quelques départements de littérature comparée en Iowa? Je vous réponds.
Parce que
le gouvernement canadien, par exemple, a demandé à ses fonctionnaires de ne plus s'adresser aux citoyens disant monsieur ou madame parce que je vous prêterai une identité de genre sans vous en avoir demandé la permission. Ces idées radicales sont rendues aujourd'hui dans le langage administratif de l'État. C'est le cas aussi en Europe, soit dit en passant, avec cette création ubuesque quelquefois qu'est l'Union européenne. Alors, vous me dites idées radicales pour discréditer, que je critique des idées radicales pour discréditer derrière ça des idées sensées. Je ne crois pas. Je dis simplement que ce que vous appelez idées radicales, le système médiatique aujourd'hui a tendance à normaliser trop souvent de telles idées, ensuite à légitimer leurs prétentions scientifiques. Donc devant cela, vous me permettrez de me montrer critique et de ne pas applaudir tout ce qui se présente comme une innovation sociétale admirable.
Voilà, à 8h40 sur France Culture, je vais continuer à aller à l'encontre de vos arguments, Mathieu Bock-Côté, vous qui publiez l'Empire du politiquement correct. Je vais vous dire que finalement, toutes ces idées, elles ne sont pas portées politiquement. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a pas véritablement de parti, à ma connaissance, qui, en France, défend le véganisme. La question, donc, de la théorie du genre, elle est à demi assumée.
Vous savez, ça, c'est le génie de nos progressistes, si je peux me permettre. C'est-à-dire, au même moment, ça, c'était, je pense, sous Madame Vallaud-Belkacem à l'éducation, au même
moment... Qui était l'ancienne
ministre de l'éducation. À son époque, au moment où elle appliquait quelque chose, elle niait l'appliquer. C'est assez fascinant, c'est-à-dire, on va nous dire, la théorie du genre n'existe pas, mais au même moment, si vous la contestez, vous êtes un réactionnaire, vous êtes un affreux. Moi, je pense que nos progressistes auraient tout avantage à assumer leurs idées, à nous dire qu'ils avancent politiquement, avec un agenda, c'est tout à fait légitime. On est en démocratie, on a chacun des idées, vous avez vos idées, j'ai les miennes, ce ne sont pas les mêmes manifestement. Alors, je pense que nos progressistes ont tout intérêt à assumer leurs idées et à ne pas nous dire, par exemple, regardez sur la question de l'immigration massive, où on va nous dire au même moment, l'immigration massive n'existe pas, mais c'est une chance, et par ailleurs, vous n'avez pas le droit de vous y opposer. Alors, devant cela, moi, j'aimerais savoir quelle est la définition commune du réel que nous pouvons avoir. Or, trop souvent, me semble-t-il, il y a une forme de peur d'exciter la xénophobie présumée de la plèbe. Il y a trop souvent, je crois, une négation du réel par exemple, de la décomposition des sociétés soumises au multiculturalisme.
L'argument est complètement réversible, c'est-à-dire que c'est le même type de rhétorique qui est utilisée sur l'islamophobie, par ceux qui, effectivement, ont un préjugé contre l'islam. On va vous dire, le terme est mal choisi, le terme n'existe pas, le terme est finalement un terme qu'il faut abandonner, mais la chose, c'est-à-dire le racisme anti-musulman, le fait qu'il existe de la ségrégation et de la discrimination, je parle du cas français, hein.
Oui, Mathieu Bock-Côté, mais oui, c'est intéressant ce que vous dites ici, c'est-à-dire à partir de quand y a-t-il du racisme envers ou de la discrimination envers les musulmans, très probablement. La question est pas la question qu'à partir, mais c'est il y en a envers tous les groupes, je vous dirais, c'est le drame, la bête humaine n'est pas toujours une belle bête. Mais cela dit, vous noterez qu'à partir de cette réalité, on utilise un concept, encore une fois, qui sert à assimiler la critique de l'islamisme, la critique de l'islam à cette discrimination odieuse qui est faite contre des populations musulmanes. Quelqu'un qui est fondamentalement hostile au catholicisme, il y en a. Est-ce qu'on doit le traiter de catophobe ou tout simplement de quelqu'un qui refuse le catholicisme dans son essence même? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de rejeter le catholicisme sans se faire accuser de catophobie? Je l'espère. Est-ce qu'on peut inversement dire « je n'adhère pas au noyau spirituel ou philosophique de l'islam » sans être un islamophobe et sans croire pour autant que je déteste les musulmans? Est-ce qu'il est possible d'avoir une discussion éclairée qui ne soit pas immédiatement placée sous le signe de la phobie? Ensuite, il faut évidemment condamner toute forme de discrimination ethnique ou raciale, ça va de soi, mais n'assimilons pas à la discrimination ethnique ou raciale le refus d'adhérer à une définition qu'une religion propose d'elle-même.
Et alors, puisqu'il est question de la respectabilité politico-médiatique dans votre ouvrage, Mathieu Bock-Côté, quelle est la responsabilité des médias, selon vous, dans la promotion de ce type d'idées?
Alors, c'est particulier parce que très souvent, je trouve que le système médiatique a tendance à normaliser, par exemple, des idées assez militantes en les présentant, je le disais tantôt, comme le sens de l'histoire. Et inversement, à disqualifier systématiquement des contradicteurs pourtant éclairés. Je pense qu'un débat public éclairé, pour moi, c'est un débat qui maximise tout à la fois le pluralisme et la courtoisie. C'est-à-dire le plus de diversité intellectuelle possible, donc accepter de voir l'autre comme un adversaire légitime et non pas comme un ennemi. Et au même moment, la courtoisie la plus grande, éviter le style histrionique, éviter la disqualification morale de l'adversaire, éviter la tentation de la guerre civile, éviter de croire qu'on a pour soi le monopole du vrai, du juste et du bien, accepter que l'adversaire, autrement dit, soit un digne être... Un digne interlocuteur, ce qui ne veut pas dire qu'on est appelé à s'entendre. La politique, elle est conflictuelle, elle est même passionnelle. Voilà pourquoi nous avons un devoir de courtoisie supplémentaire pour être capable d'accepter le désaccord intellectuel. Ça va pas de soi, ça va probablement contre nos affects, et pourtant, cette courtoisie, elle est élémentaire pour nous civiliser, et ensuite civiliser un désaccord qui sera réel et assumé.
Et alors, vous qui êtes à la fois souvent en France, mais malgré tout québécois, comment jugez-vous les médias français de ce point de vue et en comparaison avec ce que vous connaissez?
Vous savez, moi, ce que j'admire dans les médias français, et Dieu sait que j'aime la France, c'est que c'est des médias qui croient encore à l'importance de la vie intellectuelle. Il y a ici, même dans les émissions d'infotainment, comme on dit chez nous, on a besoin d'avoir un intellectuel, un philosophe, un homme de culture. Donc la France se reconnaît encore un devoir d'exigence envers la vie intellectuelle. La simple existence d'une radio comme France Culture, pour moi, est l'objet de réjouissance. Je vous écoute, bien franchement, tous les jours, d'une manière ou de l'autre, une émission ou l'autre. Pour moi, une radio comme France Culture, c'est absolument essentiel. La place accordée à la vie des idées, à la vie philosophique, à la vie littéraire dans l'espace public, je m'en réjouis. Ensuite, est-ce que c'est parfaitement équilibré dans le traitement des différentes options? Peut-être pas, mais sur le fond des choses, ce que j'apprécie, c'est la valeur accordée à la vie intellectuelle, littéraire et philosophique ici, alors que chez nous, je crois que nous sommes davantage sous la tutelle américaine dans un rapport, une forme de divertissement bête et avilissant.
Mathieu Bock-Côté, l'empire du politiquement correct.